à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les 5 derniers opus, oh non, il y en a plus que ça maintenant, sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. Encore une semaine, encore très riche en encore des rebondissements. Dès samedi 15 juin, des centaines de milliers de manifestants battent le pavé dans toute la France contre les mouvements d'extrême droite et leurs alliés. Au Mans, on compte 1600 personnes avec plusieurs ambiances dans le cortège. Vous aurez tous reconnu à bas la hiérarchie de Stupéflip, c'était dans le camion de la CGT. Oui, la CGT, le plus gros cortège en tête de manifestation. Et les voilà qui passent des titres un petit peu rock'n'roll, voire même totalement anti-hiérarchie. Un peu plus loin. Ah, c'est beaucoup moins revendicatif. Alors vous aurez deviné d'où sort ce son, de quel camion ? Oula ! Bon, haro sur le suspense, c'était la CFDT. Normal, et pas très loin, on entendait ça. Ce qu'on pourrait appeler un bloc radical, surtout des jeunes derrière une banderole avec quelques mégaphones et du coup pas besoin de camions sono, tout le monde reprend. Ils étaient à peu près 300 dans le bloc en question. Bah, s'ils sont tous antifascistes, c'est plutôt rassurant. On trouvait au-delà de la CGT, de la CFDT, bah, le NPA, Révolution Permanente Sud, la FSU, un drapeau palestinien ou deux ou trois, ah, quelques-uns, l'UCL, l'UNEF, le PCF, LFI, voilà, un peu tout le monde. Avant le départ du cortège, place de la République, on a croisé un indigène indigné. Voilà comment cet homme se présente. Il portait une pancarte avec l'équation d'Averroès, un philosophe érudit arabe du XIIe siècle, qui nous dit ceci dans son équation. L'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine à la violence. Voilà l'équation. Avec cet indigène indigné, nous avons parlé de narratif, de médias et d'Aristote.
Je pense qu'il y a le grand philosophe grec Aristote. Il parlait dans son livre sur la rhétorique. Il disait que pour construire une rhétorique, on a besoin de trois ingrédients. Le pathos, le logos et l'éthos. Le pathos, c'est l'appel à l'émotion. Le logos, c'est l'appel au raisonnement logique. Et l'éthos, c'est l'appel à l'expérience de l'orateur. Parmi les trois ingrédients, c'est le pathos qui est le plus puissant. Mais le problème, c'est que Monsieur Aristote aussi nous a averti il y a plus de 2500 ans. Il nous a donné un petit conseil. C'est que lorsque vous voyez quelqu'un dans sa rhétorique utiliser exclusivement que du pathos, il faut s'en méfier.
Et c'est loin qu'on puisse dire, il faut s'en méfier. Méfions-nous du pathos qui sert à longueur de journée à amalgamer tout et n'importe quoi sur les plateaux télé et sur les plateaux radio. Le pathos à tous les étages, servi à longueur d'antenne par des malhonnêtes maniant l'amalgame permanent. Comme celui de l'antisémitisme, toute personne soutenant que l'État d'Israël est dirigé par l'extrême droite et des suprémacistes juifs ne peut être qu'antisémite. Voilà, c'est ça actuellement. Toute personne portant un symbole de la Palestine ne peut être qu'antisémite. On voit bien dans ces deux phrases que le logo c'est au fond des oubliettes et que seul le pathos a le droit de citer. Alors, voyant une ado drapée dans un drapeau palestinien, on est allé lui demander si elle se sentait antisémite.
Alors vraiment pas, je suis pas du tout antisémite et je pense qu'il y a plein de juifs justement qui sont aussi pro-palestiniens, même des sionistes, enfin des israéliens qui sont pro-palestiniens, palestinistes. Et c'est pas du tout un combat contre les juifs ou contre les israéliens, c'est un combat contre le sionisme du gouvernement de Netanyahou. Et c'est pour les vies humaines en Palestine qui se font tuer et massacrer. Et c'est pas du tout un combat contre quelconque juif.
Ça a le mérite d'être clair. On a parlé à d'autres personnes critiques de la politique de l'État israélien et des défenseurs de la cause palestinienne. Aucun n'a revendiqué d'antisémitisme. Faisant toujours la distinction entre le peuple et les dirigeants quand ils parlaient d'Israël, les bourreaux et les victimes quand ils parlaient également de la Palestine. Franchement, moi ça m'a fait du bien de parler avec des gens qui ne parlent pas qu'avec leur trip mais utilisent aussi leur tête. Parce que cette semaine, on a atteint des sommets de confusion. Un exemple, Alain Finkielkraut. qui dit, philosophe patenté, qui dit sur LCI, choisir le Front populaire, c'est choisir l'antisémitisme. Le même philosophe réac est l'invité du Cercle de Flore, animé par l'Action française, le 28 juin à 20h. La publicité pour l'événement n'est plus trouvable sur le site de l'Action française, qui a honte, Finkielkraut ou l'Action française, je n'en sais rien. L'Action française est un mouvement royaliste d'extrême droite fondé contre Dreyfus à la fin du 19e siècle. L'Action française adopte et propage les idées d'un certain Maurras. Le Maurras en question écrivait en avril 1935 à propos de Léon Blum, dirigeant du Parti socialiste de l'époque et futur président du Conseil pendant le Front populaire. Attention, c'est Maurras qui parle, éloignez les enfants. Ce juif allemand naturalisé ou fils de naturalisé qui disait aux Français en pleine chambre qu'il les haïssait n'est pas à traiter comme une personne naturelle. C'est un monstre de la République. C'est un irkoserf de la dialectique Heimatlos. Détritus humains à traiter comme tel. L'heure est assez tragique pour comporter la réunion d'une cour martiale qui ne pourrait fléchir. Vous me direz qu'un traître doit être de notre pays. Monsieur Blum en est-il? Il suffit qu'il ait usurpé notre nationalité pour la décomposer et la démembrer. Son acte de volonté, pire qu'un acte de naissance, aggrave son cas. C'est un homme à fusiller, mais dans le dos. Et oui, voilà comment Charles Maurras parle de Léon Blum dans l'Action française en 1935. Voilà donc le genre de personnage que fréquente Alain Finkielkraut, des gens qui ont été biberonnés à la pensée de Charles Maurras. Tout en traitant ceux qui critiquent la politique du gouvernement d'extrême droite et suprémaciste juif israélien d'antisémites. Oh là 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 là, la confusion toujours entretenue depuis octobre 2023 et les actions du Hamas en Israël. Le PCF, pour parler de l'autre côté, continue de nier son histoire et ses valeurs avec un certain Fabien Roussel. C'est lui qui avait tant vanté la valeur travail, oubliant les règles de base marxistes qui font du travail une nécessité fâcheuse. Et c'est bien au-delà de la nécessité, quand on se sera débarrassé de la fameuse rareté, que l'humain trouvera la liberté. Et c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les marxistes et Karl Marx lui-même. Au cours d'une foire d'empoigne appelée débat, le même Fabien Roussel annonce sur BFM TV que le PCF a demandé à LFI de retirer l'investiture au porte-parole de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, militant antifasciste fiché S. Les communistes qui ont précédé Fabien Roussel à la tête du parti doivent se retourner dans leur tombe, tant les militants du PCF ont connu à la fois la surveillance et les persécutions policières, sans parler des carnets B, sans parler de toutes les autres fiches de fichiers qui ont pu leur tomber dessus à un moment ou à un autre. Une confusion qui ne doit pas nous éloigner de la réalité du moment. Les macronistes passent leur temps d'antenne à assurer qu'il existe trois blocs. Un bloc central dont il faut partie, un bloc des gauches, un bloc nationaliste avec le FN, une partie des Reconquêtes, une partie des LR, enfin voilà, toute la droite quoi. Toute la droite qui n'est pas chez les macronistes. Mais si on regarde les programmes, le bloc central et le bloc nationaliste se retrouvent sur beaucoup, beaucoup de choses et notamment l'économie. Le bloc central et le bloc nationaliste défendent le travail salarié qui permet les profits. Ils défendent la responsabilité de leurs propositions économiques en prenant comme critère le respect des idées capitalistes. Ces deux blocs revendiquent de continuer à exploiter la terre et les populations pour créer de la croissance, du produit intérieur brut. L'accueil des forces capitalistes et libérales prouve simplement qu'entre le bloc central et le bloc nationaliste, par exemple, il n'y a pas de choix à faire. Le MEDEF, la CGPM, l'UP2A, c'est-à-dire les syndicats de patrons, n'ont pas à choisir, puisque les deux programmes leur vont. Dans les Échos, le 14 juin, un journal d'information économique qui se revendique lui-même comme libéral et pro-business, certain monsieur Pécresse, je ne sais pas s'il est en relation avec madame Pécresse, dit dans un éditorial « La grande ingratitude des milieux économiques envers Macron ». Voilà le titre. Le chapeau, tout ce dont les entreprises rêvaient, Emmanuel Macron leur a donné. Pourtant, petits et grands patrons, petits surtout, lui mégotent leur soutien public quand ils n'appellent pas carrément de leur vœu l'arrivée du RN au pouvoir. Pour les libéraux, en fait, le capitalisme n'a rien à craindre de l'arrivée aux manettes du Rassemblement national, tout comme il n'a rien à craindre de la continuité avec les macronistes. Pour les deux blocs tellement proches, l'idée est de ne pas augmenter les impôts, par exemple. Surtout pour les plus riches. De fait, le RN se présente quand même comme le soutien du peuple, avec des mesures sur la TVA. Ah ben non, pardon, c'est pour plus tard. Bon alors, avec le retour à la retraite à 60 ans. Ah non, encore pardon, ça n'est plus dans le programme. Alors, avec l'abrogation de la loi sur les 64 ans, loi contre laquelle des centaines de milliers de personnes ont bataillé en 2023 et 90% des personnes qui travaillaient, les personnes actives, comme on disait, d'après les sondages, étaient contre cette réforme qui portait donc l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans. Eh bien, l'abrogation sera faite par le RN. Ah oui, alors non, oups, là encore, l'abrogation prévue au début n'est plus à l'ordre du jour ou alors plus tard. Toutes ces promesses de campagne ont été mises de côté pour rassurer les milieux économiques et l'électorat de droite. Et tant pis pour la population qui s'appauvrit toujours plus, qui se soigne et se chauffe toujours moins. Le RN, c'est aussi des votes à l'Assemblée nationale depuis 2022, puisqu'il est fort, ce RN, de 88 députés. Dans le désordre, les députés nationalistes ont voté contre le blocage des prix des produits de première nécessité, ça c'était une proposition en pleine inflation, contre le gel des prix des loyers, contre l'augmentation du SMIC, contre l'encadrement des salaires, contre la taxation des yachts et des jets privés, on sait jamais, on pourrait en avoir un, contre le rétablissement de l'ESF. Ils ont voté également pour la fin des allocations de chômage si vous refusez un CDI à la fin d'un CDD. Voilà donc à quoi ressemble le RN quand il se met à faire du social. Le RN n'a rien à envier aux macronistes pour l'application d'un programme libéral en économie. La concurrence, la compétition, ça les connaît. Les militants RN passent leur temps à chercher des boucs émissaires parmi les étrangers et les mauvais français, des boucs émissaires pour tous les problèmes de la population, en oubliant systématiquement de pointer les conséquences de l'activité économique à la sauce libérale. De l'autre côté, il existe un bloc des gauches. Parce que les trois blocs, là, moi, j'y crois pas du tout. Il y en a deux qu'on a remis les uns avec les autres et qui vont très bien ensemble. Et par contre, de l'autre côté, il existe un bloc des gauches avec des libéraux sociaux qui tentent une synthèse du socialisme et du libéralisme en économie. Synthèse qui penche toujours du côté libéral, mais pas au point d'être macroniste. Mais au sein de ce bloc de gauche, on trouve aussi des communistes. Des militants de l'équité sociale, des militants de la lutte contre la pauvreté, des antiproductivistes, des écologistes sincères et j'en passe. Autant de catégories politiques qui prônent l'entraide, la coopération, l'économie sociale et solidaire et même certains qui prônent une économie socialiste. Autant de catégories qui affolent les capitalistes. Imaginez faire payer les riches qui le sont par le travail de la population, rétablir l'ISF, encadrer les salaires, augmenter les taxes sur les gros héritages. En proposant tout cela, le bloc des gauches attaque frontalement le libéralisme. Alors des instituts bien orientés à droite comme l'IFRAP, dont nous avons déjà parlé, on vous recommande d'ailleurs le dossier produit par l'Observatoire des multinationales à propos d'Atlas et de sa filière française, l'IFRAP, sur le site multinational.org. Donc l'IFRAP a chiffré les programmes et leurs travaux sont repris dans le Figaro. Ah bah oui, il n'y a pas de hasard. Stop au suspense, le programme des macronistes est excédentaire, celui des nationalistes déficitaire de 18 milliards. Mais bien sûr, le pompon est pour le nouveau Front populaire, dont le programme crée des abîmes dans le budget de l'État. Eh bien, quand des lobbies libéraux se mettent à hurler à l'irresponsabilité économique, moi je pense que ça va dans le bon sens. Si le programme économique de la gauche fait si peur aux nationalistes et aux macronistes, fortement liés par leur idéologie libérale en économie, c'est que ce programme va dans le bon sens. Clairement, au lieu des trois blocs inventés par les macronistes et repris dans les médias, il faut se rendre compte que l'enjeu qui nous occupe pour ces législatives, c'est d'un côté la continuité libérale avec le centre bien à droite et les nationalistes, et de l'autre côté une inflexion, non, même pas un virage, une inflexion vers une société où l'économie n'est plus le centre de nos vies et le seul critère dans les arbitrages. Alors du coup, pour enfoncer le clou, on a décidé de continuer notre petite série sur les libéraux en économie, ces pourvoyeurs d'équations mathématiques censés représenter la population. Ça commence maintenant. Chose promise, chose due, l'homo economicus, rappelez-vous, c'est un idéal mathématique défini par des libéraux comme un individu censé connaître tous les choix possibles et qui peut classer ses choix dans un ordre de préférence cohérent et qui prend toujours la meilleure décision. celle qui maximise sa satisfaction. Voilà comment le définit Jacques Généreux, économiste. Ce concept mathématique permet à Léon Valras, économiste libéral du début du XXe siècle, de créer des équations et d'arriver à la théorie de l'équilibre général, poussant un peu plus loin l'idée de la main invisible du marché, si chère à Adam Smith et à l'école des économistes dits classiques. C'est le nom que leur a donné Karl Marx. Adam Smith, auteur de la théorie des sentiments moraux et de la recherche sur la nature des richesses des nations, qui écrivait, je cite, donc on est en 1776. L'égoïsme d'un individu seul est nuisible, mais la confrontation des égoïsmes mène à l'intérêt général. Si un producteur tente d'abuser de sa position et fait monter les prix, des dizaines de concurrents tout aussi avides de profit en profiteront pour conquérir le marché en vendant moins cher. La main invisible oriente donc le travail vers l'usage le plus utile à la société, car c'est aussi celui qui est le plus rentable. Elle règle avec justesse aussi bien les prix que les revenus et les quantités produites. Et voilà donc une confrontation des égoïsmes qui guide encore les travaux d'économistes qui forcément adhèrent à la philosophie libérale et au concept idéologique du marché autorégulateur, démonté notamment par un certain Karl Polanyi dont on a déjà parlé. Parmi ces économistes libéraux, on trouve Gary Baker. Gary Baker, lui, il a fait des études d'économie sous la férule de Milton Friedman de l'école de Chicago. Il élargit, Gary Baker, élargit la présence de l'homo economicus, celui qui prend toujours, qui connaît tous les choix et qui prend toujours le choix le meilleur possible puisqu'il va satisfaire au plus haut point. Eh bien, il élargit la présence de l'homo economicus à l'étude d'objets sociaux comme le mariage, la fécondité ou la discrimination. La rationalité économique est donc notre ressort. Voilà ce qu'on définit. Les libéraux, c'est comme ça. Et tant pis si les sociologues, les anthropologues, les économistes non libéraux remettent en cause l'existence de cet homo economicus. Je vous avais proposé la dernière fois de chercher autour de vous qui agirait essentiellement par rationalité économique. Eh ben, pour ma part, après un calcul rapide pour connaître la proportion de ces gens par rapport à l'ensemble de mon entourage, le taux se rapproche de zéro. Mais cela n'empêche pas nos représentants actuels de s'appuyer implicitement sur l'existence de cet homo economicus pour mettre en œuvre leur politique économique. Prenons par exemple le Premier ministre actuel et la ministre du Travail du moment. En septembre 2021, alors que la réforme de l'assurance chômage qui fait baisser les allocations des plus précaires est en marche, nos deux soi-disant représentants lancent un grand plan qui va servir de contre-feu et qui est intitulé « Plan de réduction des tensions de recrutement ». Répondre dès maintenant aux besoins des entreprises et préparer l'avenir. Ça date de septembre 2021. La France fait aujourd'hui le choix clair d'investir très fortement dans le capital humain. C'est Jean Castex qui parle. La formation des salariés et des demandeurs d'emploi est déterminante pour répondre non seulement aux besoins à court terme, mais aussi pour accompagner les grandes transitions en cours qui feront notre économie de demain, c'est-à-dire les métiers de la transition écologique, du numérique, de l'industrie et des services. Alors ben Jean Castex, lui, il annonce ça, il annonce qu'on va recruter pour les métiers en tension. Et puis, Elisabeth Borne, qui est la ministre du Travail du moment, hein, Pénicaud, non, elle est partie ailleurs, se trouve un Marocain ailleurs. Un Marocain, c'est pas du tout quelqu'un du Maroc. Donc, pour répondre aux tensions actuelles et à venir, là, c'est Elisabeth Borne qui parle. Nous lançons un plan ambitieux qui mobilise les régions et Pôle emploi et qui met l'accent sur la formation en situation de travail. Ce plan a d'abord pour ambition de répondre aux besoins immédiats des entreprises. Ah bah là, c'est clair au moins. Les besoins immédiats des entreprises, voilà ce qui nous intéresse. Je continue. En orientant les demandeurs d'emploi et les salariés vers les métiers les plus demandés. Il vise également à faciliter les transitions professionnelles des salariés pour leur permettre de monter en compétences et de se réorienter vers les métiers porteurs. Ce plan porte enfin une attention spécifique aux demandeurs d'emploi de longue durée en privilégiant les mises en situation en entreprise qui ont montré leur efficacité. En investissant dans les compétences les plus recherchées par les entreprises, nous voulons rendre à chacun la maîtrise de son parcours professionnel. Ah ça, ça se contredit totalement, hein, c'est un oxymore. On investit dans les compétences les plus recherchées dans les entreprises et ça permet à chacun de maîtriser son parcours professionnel. Bah voyons. Et nous, donc ça lui donne de l'autonomie, le fait qu'on investit dans les compétences les plus recherchées par les entreprises. Bah je ne crois pas. Et nous voulons permettre à nos entreprises d'être plus compétitives sur la scène mondiale. Nous sommes déterminés à tout faire pour encourager la reprise économique de notre pays, accompagner la dynamique des embauches et faire en sorte qu'elles bénéficient à tous les Français. Bah oui, ça c'est pour faire croire qu'on travaille pour tout le monde. Donc en voilà deux, qui possèdent une capacité d'action et donc de nuisance maximum puisqu'ils sont ministres, et donc mettent en œuvre des choix idéologiques de nos gouvernants. Mais les faits sont têtus. Mis à part ces cadres et hauts fonctionnaires qui se font passer pour nos représentants, peu de gens réagissent comme des homo economicus. Les gens là, on voudrait nous faire croire que Ceux qui sont au chômage ou à la recherche d'un emploi, ils vont se porter vers les métiers en tension. Pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que leur satisfaction personnelle maximum, c'est de toucher un salaire et le plus haut possible. Eh ben non, les gens peuvent peut-être avoir envie d'un certain épanouissement dans leur activité professionnelle, dans l'activité qui leur permet de payer leur loyer. Pour nos représentants Jean Castex et Elisabeth Borne, qui, je le rappelle, n'ont jamais été élus, hein, puisqu'ils sont ministres, ils sont nommés par le président de la République, eh bien ces deux personnes continuent à avoir l'homo economicus dans le viseur. Et l'idée, c'est que nous sommes simplement des ressources humaines qu'on va pouvoir poser là, positionner ici. Pourquoi ? Ben parce que dans le métier, on a besoin de bras. Est-ce qu'on a besoin que la personne soit heureuse ? Non, on a juste besoin de sa force de travail. Eh bien, cherchons au-delà de nos intimes et de nos connaissances à propos de cette idée d'homo economicus. Par exemple, en anthropologie. Quand les Européens commencent à s'intéresser aux autres peuples du monde, il est un problème. Chacun voit midi à sa porte. Et les Européens ne sont pas connus pour avoir tenté de comprendre les autres avant de les décimer, pour s'approprier leurs terres et leurs richesses. Et comme leur haut degré de civilisation semblait être, du moins aux yeux de ces Européens, le summum de l'évolution, les peuples, n'ayant pas adopté au hasard l'usage du pourpoint ou de la monnaie d'or et d'argent ou des reliques de Jésus-Christ, deviennent quantité négligeable et sont regroupés sous le vocable de « sauvage ». Alors pour certains, le sauvage, c'est un être de nature, hein, monsieur Rousseau. Quand les civilisés sont, comme leur nom l'indique, des êtres de culture. Quand Adam Smith en parle dans l'introduction de Recherche sur la nature de la richesse des nations, il dit à peu près ceci. Non, il dit totalement ceci. Chez les nations sauvages qui vivent de la chasse et de la pêche, tout individu en état de travailler est plus ou moins occupé à un travail utile et tâche de pourvoir du mieux qu'il peut à ses besoins et à ceux des individus, de sa famille ou de sa tribu qui sont trop jeunes, trop vieux ou trop infirmes pour aller à la chasse ou à la pêche. Ces nations sont cependant dans un état de pauvreté suffisant pour les réduire souvent, ou du moins pour qu'elles se croient réduites à la nécessité, tantôt de détruire elles-mêmes leurs enfants, leurs vieillards et leurs malades, tantôt de les abandonner aux horreurs de la faim ou à la dent des bêtes féroces. Au contraire, chez les nations civilisées et en progrès, quoi qu'il y ait un grand nombre de gens tout à fait oisifs, oui, ils parlent des enfants, des vieux, etc. Ah bah c'est une brute, hein ! Et beaucoup d'entre eux qui consomment un produit de travail décuple et souvent centuple de ce que consomme la plus grande partie des travailleurs. Cependant, la somme du produit du travail de la société est si grande que tout le monde y est souvent pourvu avec abondance. Et que l'ouvrier, même de la classe la plus basse et la plus pauvre, s'il est sobre, eh oui, hein, l'histoire de la tempérance alcoolique, s'il est sobre et laborieux, peut jouir en choses propres aux besoins et aux aisances de la vie, d'une part bien plus grande que celle qu'aucun sauvage pourra jamais se procurer. Eh bien oui, il y a cette vision de la part de Adam Smith d'un évolutionnisme totalement ethnocentré. Adam Smith ne peut imaginer une économie basée sur un autre concept que le marché. L'absence d'accumulation et de thésaurisation lui semble forcément être de la pauvreté qui amène à détruire les enfants, les vieillards, etc. Pour sa défense, on peut indiquer qu'il se contente, comme bon nombre d'anthropologues jusqu'au début du XXe siècle, de parler de sujets à partir de témoignages et de récits de voyageurs pas toujours rigoureux quand il s'agit de rapporter les faits. Mais par son jugement, Adam Smith montre une vision évolutionniste des sociétés. Celle-ci même qui fut théorisée par Herbert Spencer vers 1850. Ce dernier applique à la sociologie les théories darwiniennes et ainsi considère que les guerres et autres conquêtes participent de la sélection naturelle des sociétés. Les sociétés humaines sont d'ailleurs classées par lui en fonction d'avancées et de retards. À la même époque, un certain Lewis Henry Morgan, anthropologue états-unien, effectue un classement en trois étapes. D'abord, il y a l'état sauvage, la barbarie et la civilisation. Devinez qui est civilisé et qui vit selon des critères de barbare ou de sauvage. Les idées des évolutionnistes favoriseront l'émergence du racisme scientifique, science fumeuse née au XIXe siècle, qui classe les races inférieures à supérieures. Les idées évolutionnistes sont toujours à l'œuvre dans les années 1970, quand les pays pauvres sont appelés par exemple pays en sous-développement. Voilà, il y a un retard, il n'y a pas un développement autre, non, il y a un retard. Heureusement, d'autres écoles anthropologiques sont passées par là. Et sans en faire le détail, si le sujet vous intéresse, il suffit de se procurer une histoire de l'anthropologie. Un certain nombre de lieux communs sont battus en brèche tout au long du XXe siècle, notamment par des anthropologues de terrain. L'anthropologie se découpant en plusieurs sous-matières et par exemple, il existe une anthropologie économique qui, comme le nom l'indique encore, étudie l'économie dans les groupes humains. Comme nous l'a montré Karl Polanyi dans La subsistance de l'homme, la place de l'économie des histoires et la place de l'économie, pardon, dans l'histoire et la société, ça c'était le sous-titre de son livre à Karl Polanyi, qui date de 1977. Il existe au moins deux définitions de l'économie. Celle de l'économie formelle, si chère aux libéraux qui s'attachent à étudier la manière dont sont utilisées les ressources dans un contexte de rareté afin d'en tirer le maximum, et l'économie substantielle. Et là, je cite Polanyi à propos de l'économie substantielle. L'économie substantielle vient en bref de la dépendance manifeste de l'homme vis-à-vis de la nature et de ses semblables pour obtenir sa subsistance. Il doit sa survie à une interaction institutionnelle avec son environnement naturel. Ce processus, c'est l'économie, qui fournit à l'homme les moyens de pourvoir à ses besoins matériels. Cela ne signifie pas que les besoins qu'il faut satisfaire sont exclusivement physiques, comme la nourriture et l'habitat, aussi importants ces derniers soient-ils pour la survie. Car cela reviendrait à restreindre de façon absurde le domaine de l'économie. Ce sont les moyens et non les besoins qui sont matériels. Peu importe que les objets utiles servent à prévenir la famine ou aient des fins éducatives, militaires ou religieuses, tant que la satisfaction des besoins dépend d'objets matériels, la référence est économique. Économique ne signifie rien d'autre que se rapportant au processus de satisfaction des besoins matériels. Étudier la subsistance de l'homme, c'est étudier l'économie dans ce sens substantiel. Dans l'ensemble de notre ouvrage, c'est cette signification du terme économique que nous utiliserons. Et je vous enjoins à le lire pour voir que l'économie, c'est pas simplement essayer de maximiser les profits à partir de moyens rares. Eh bien, l'anthropologie économique ne fait pas l'économie des deux définitions dont nous parle Karl Polanyi. Et nous voilà avec un courant formaliste qui décrit et analyse les économies en fonction de leur capacité à établir marché et prix, et un courant substantiviste qui décrit et analyse l'économie comme une activité encastrée dans le champ social. En gros, dans les anthropologues, certains ne voient que la comparaison par rapport à nos sociétés et par rapport à l'économie libérale, et puis d'autres essayent de voir comment cette économie est simplement une activité encastrée dans le champ social, dans les groupes qu'ils étudient. Parmi ces substantivistes, on trouve un certain Marshall Salins, qui travailla sur les économies des peuples dits primitifs. Il travailla aussi à démonter et à démontrer les travers d'une science nouvelle, la sociobiologie, une science qui cherche à expliquer les comportements humains par la sélection et l'évolution des gènes, donnant ainsi une place très importante à l'inné. En 1976, il publie « Critique de la sociobiologie », comme ça c'est clair, « Aspect anthropologique ». Et en 2009, un petit opus intitulé « La nature humaine, une illusion occidentale », où on peut lire. Je m'inscris en faux contre le déterminisme génétique, si en vogue aux États-Unis aujourd'hui, et qui prétend expliquer la culture par une disposition innée de l'homme à rechercher son intérêt personnel dans un milieu compétitif. Comme par hasard, ce sera un petit peu idéologique, tout ça, ce déterminisme génétique, puisque rechercher son intérêt personnel dans un milieu compétitif, on en revient à l'homo economicus, et donc à cette chimère libérale qui veut nous faire croire que nous ne sommes mus que par notre intérêt et notre égoïsme. Donc cette idée est soutenue par les sciences économiques qui considèrent que les individus ne cherchent qu'à assouvir leurs désirs par un choix rationnel, sans parler des sciences du même acabit et pourtant si populaires comme la psychologie évolutionniste et la sociobiologie qui font du gène de l'égoïsme le concept fourre-tout de la science sociale. Mais comme Oscar Wilde le disait à propos des professeurs, l'ignorance est le fruit d'une longue étude. Oubliant l'histoire et la diversité des cultures, ces fanatiques de l'égoïsme évolutionniste ne remarquent même pas que derrière ce qu'ils appellent la nature humaine se cache la figure du bourgeois, à moins qu'ils ne célèbrent leurs ethnocentrismes en prenant nos us et coutumes pour des preuves de leur théorie du comportement humain. Pour ces sciences-là, l'espèce, c'est moi. Eh oui, ça manque d'ouverture d'esprit. Pour Salins, la culture et la nature humaine. Et c'est pourquoi, selon lui, la culture occidentale, conformiste et réductrice, ne réussit pas à connaître l'humain autrement que par son biais. Et voilà donc les peuples qui ne vivent pas selon les concepts libéraux du capitalisme, mais qui vont être définis simplement comme pauvres. Comment peut-il en être autrement pour une civilisation dont l'économie est basée sur l'appât du gain dans un contexte de rareté des ressources desquelles il faut tirer le maximum de profit ? Seulement, le concept d'abondance, qui de fait revient à l'idée de suffisant, accepte d'autres formes, l'abondance des uns n'étant pas celle des autres. Et ainsi, un certain Marshall Salins, on vient d'en parler, a écrit un ouvrage intitulé « Âge de pierre, âge d'abondance », sous-titré « L'économie des sociétés primitives », un ouvrage synthétique de 1976, dont nous parlerons la prochaine fois. Bon, il se passe plein de trucs cette semaine. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur sarthe.demosphère.net. sarthe.demosphère.net. On peut quand même vous citer une manifestation dimanche 23 juin à 10h30. Rendez-vous place de la préfecture, manif à l'appel de collectifs féministes et de l'intersyndicale pour dénoncer l'imposture sociale du Rassemblement national. Allez, ben, en attendant de se voir dehors, je vous dis tout simplement allez, au revoir.